Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin à travers sa parole. Alors vous savez que on échange beaucoup de vœux en ce moment, c'est normal. Hein. Et tout au long de ces jours, eh bien, les amis, la famille d'abord, les amis, et puis peut-être ceux qui sont plus au loin. Alors, c'est toujours un moment de bilan. Vous savez, dans le monde économique ou commercial, on fait des inventaires, on fait des bilans, on voit où on en est rendu. Il faut bien un moment ou un autre marquer un temps d'arrêt. Et on regarde naturellement le temps passé, et puis on se projette dans l'avenir. Alors c'est vrai que le monde est plein d'inquiétudes, hein. Ça a toujours été d'ailleurs, de toute façon. Ça a toujours été, mais je pense que ce que nous avons, nous en tant que chrétiens, c'est que nous avons un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Et puis, il nous dit les choses comme cela. D'abord, il vient vers nous et il nous dit « ne crains pas ». Pour nous rassurer. Parce que finalement, on sait, cette année qui s'est écoulée, elle a été diversement vécue, avec des peines, avec aussi des joies. Il y a eu des choses qui étaient attendues, qui sont arrivées, et des choses inattendues aussi. Il y a des surprises agréables, et puis des surprises qui le sont moins. Alors, c'est ça la vie, hein, quoi qu'il en soit. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer devant nous. Alors, ce qui fait la différence, c'est que lui, Dieu, sait. Et de le savoir, ça doit être une formidable motivation pour nous, pour lui faire confiance. Parce que dans ces 365 jours qui sont devant nous, enfin 364 maintenant, hein, il va y avoir des choses, toutes sortes de choses. Mais moi, je veux essayer de comprendre et de coller le plus à la réalité de ce que Dieu a prévu pour moi. Hein. Et je ne saurai pas tout. Mais en tous les cas, à défaut de savoir ou à défaut de tout savoir, il y a une chose qui me réconforte, c'est que je sais que lui le sait. Et ça, vous savez, c'est inestimable. Alors moi, je sais une chose, c'est qu'il veut notre paix. Il veut que nous soyons dans la joie, que nous soyons remplis de lui-même. Et quand on est rempli de lui-même, on est rempli d'enthousiasme, parce que c'est la signification grecque du mot enthousiasme. Il veut que nous puissions être en bénédiction aussi aux autres. C'est pas pour moi-même, mais c'est pour les autres, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. J'ai mes petits plans, mes petits programmes, mais peu importe, Seigneur, s'ils sont renversés, s'ils sont bousculés, pourvu que je sois vraiment, à marcher dans tes empreintes. Ça, ce sont des choses que nous pouvons, nous interroger sur l'année qui vient, hein, l'année passée, l'année qui vient. Et je voudrais mettre en évidence un verbe devant vous. C'est le verbe « changer ». On a changé d'année, on a changé de calendrier, voilà. Mais c'est quelque chose qui est omniprésent dans la Bible, parce que Dieu nous parle de changer. Il parle qu'il est capable de tout changer. Il est capable de faire que notre monde que nous voyons aujourd'hui, qui est le nôtre, que nous connaissons bien, eh bien il peut en faire un autre monde. D'ailleurs, un jour ou l'autre, il en fera un autre monde, ça c'est clair, mais alors d'une manière définitive. Ça c'est une chose qui est acquise. Alors, je voudrais vous dire, et la question que nous allons nous poser ensemble, mais qu'est-ce qui doit changer? Alors quand on entend naturellement les vœux de tous nos hommes d'État, alors ça change toujours. Hein. Ça change et puis après à la fin de l'année, on s'aperçoit qu'il n'y a peut-être pas grand-chose qui a changé, malgré leurs efforts, parce que je veux bien croire qu'il y a aussi de bonnes intentions et tout cela. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Depuis toujours, les générations qui se succèdent, ont chacune apporté finalement leur changement. Alors souvent, quand on pense à la chose, on se dit, oui, mais ce que faisaient nos anciens, ce que faisaient nos... Hein, ceux qui nous ont précédés, c'est pas bon, c'est plus bon, c'est plus moderne, c'est plus d'actualité. Alors, on s'aperçoit que, on se dit, moi j'ai une idée lumineuse, on va faire ça comme ça, on va faire de cette manière. Alors, chacun apporte son lot de changement. Et on pourrait quand même peut-être souligner une chose, c'est que l'homme est infiniment ingénieux. Parce qu'il a des idées quand même. Hein. Il y en a des bonnes, Il y en a des moins bonnes, mais il y en a des franchement mauvaises. Ça, c'est clair. Et il est infiniment ingénieux à vouloir tout changer, comme tout ce qu'il y avait. C'est comme si tout ce qui avait été fait avant lui, eh bien, n'existait pas. C'est comme une réinvention, eh bien, d'un monde nouveau, ne comptait pas. Ça, c'est véritablement penser que Dieu est absent de ce monde. Alors, si tout change perpétuellement, comme le jour et la nuit, les saisons, les marées, etc., nous devrions certainement vivre aujourd'hui dans un monde idyllique et parfait. Or, on s'aperçoit que si on change encore, c'est que c'était pas bon avant. Il y a quand même quelque chose comme une projection vers quelque chose qui est devant nous pour dire on va faire mieux, on va faire davantage, on va faire autrement, on va faire différemment et on va changer tout. Hélas, il faut bien se le dire, ce monde-là, il y a longtemps qu'on l'a compris. Peut-être que quand on a 20 ans, on peut croire encore qu'il va y avoir des choses. Mais quand on arrive à un certain âge, on sait très bien que ce monde-là n'existe pas. Il n'existe pas sans Dieu. Il n'existe pas sans la parole de Dieu. Il n'existe pas, eh bien, sans la foi en Dieu. Et pourtant, je le rappelle, chacun à sa façon, tente de bâtir ce monde. Alors des systèmes, les hommes en ont bâti, hein, des systèmes économiques, des systèmes politiques, on a essayé ceci, on a essayé cela, on est en train d'inventer, là, dans les perspectives des 2 ans qui viennent, certainement encore de nouveaux programmes, ce sont des mots qui nous sont rappelés en permanence, pour voir comment on pourrait se sortir, pour voir comment on pourrait apporter, eh bien, un peu de bien-être, un peu de bonheur dans le monde. Alors, je dis que l'homme a des idées, il en a des idées, ça c'est certain. Et on s'aperçoit que très souvent, on démolit, et puis on essaie de reconstruire, et puis il y a des autres qui vont passer derrière et qui vont démolir ce qu'on a fait. Ah, je pense qu'on peut parler peut-être dans nos sociétés, d'un château de cartes illusoire. Un château de cartes dérisoire qui ne cesse de s'écrouler. Parce que finalement, on connaît cette maxime, hein, tout à fait populaire, hein, tout passe, tout casse, voilà, tout lasse, tout passe et tout casse. Et on va recommencer comme ça. Les gens de Babel avaient aussi de grands projets. Et vous savez comment ça s'est terminé à un moment ou à un autre? Ça s'est terminé dans la confusion. Et aujourd'hui, les hommes n'ont pas changé, c'est toujours le même refrain. Alors, peut-être, ce que nous pouvons dire avant d'ouvrir un texte de la Bible, vouloir changer le monde. Je ne sais pas si nous voulons changer le monde. Peut-être l'objectif et la vision d'un chrétien est plutôt beaucoup plus interne, beaucoup plus intime. Vouloir changer le monde, refaire le monde et rêver d'un monde nouveau. Ouais, rêver d'un monde nouveau. Or, et j'en viens maintenant à la parole de Dieu, or la Bible nous dit que si quelque chose doit changer, et ça c'est notre vœu pour cette nouvelle année, si quelque chose doit changer avant de changer tout le reste, et c'est peut-être justement la bévue du monde sans espérance, c'est de vouloir changer l'extérieur avant que l'intérieur soit changé. Parce que ça commence à l'intérieur. Et la seule chose que les hommes ne veulent pas, c'est de changer de l'intérieur. Tous les messages, finalement, que nous entendons, vont tous vers l'extérieur, l'externe. Alors que la Bible tient un langage tout à fait contraire, et avant de changer tout le reste, la parole de Dieu nous dit que c'est le cœur de l'homme qui doit changer. Et bien compris, n'est-ce pas moi d'abord qui dois changer? Et quand je dis moi d'abord, les enfants de Dieu que nous sommes. Parce que nous avons changé, certes. Lorsque nous avons entendu l'appel de Dieu, il y a eu un changement. Il y a eu, nous pouvons dire, comme les livres d'histoire, un avant et un après Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours remis sur le tour du potier. Nous sommes remis sur, eh bien là, toujours en question quelque part, pour dire où j'en suis aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que vous partagez probablement cette pensée. Moi, je la partage dans mon cas, en ce qui me concerne. Je me dis, mais c'est encore aujourd'hui un jour où je dois changer. Et qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie? Alors moi, je le sais personnellement, hein, parce que bon, ça fait partie de ma vie propre. Mais chacun d'entre nous, eh bien, on peut se poser la même question. Alors nous allons essayer de répondre à cette question insaisissable, parce que C'est pas évident, c'est pas évident. Et ça amène une autre interrogation. Est-ce que je peux me changer moi-même par mes propres efforts, par ma piété ou autre chose? Je parle pour des chrétiens. Et là, vous avez aussi toute une panoplie de systèmes, de pensées, de théologies, de manières d'être, de manières de vivre, toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui pourrait être la panacée? Qu'est-ce qui pourrait être le secret biblique, le secret de l'évangile qui m'amènerait réellement? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois entreprendre quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? Et très vite, on s'aperçoit que c'est plus difficile que de le dire. C'est beaucoup plus difficile que de le dire. Alors nous allons écouter cette parole maintenant. Et je vous invite à ouvrir dans 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, alors je vais vous dire, hein, je vais vous situer. C'est une parole, c'est un cantique de délivrance composé par le roi David. Ouais. C'était un homme comme nous, hein, David. Il a eu ses hauts et ses bas. Il a eu ses changements dans le bien et dans le mal. Parce qu'il a aussi fait des marches arrière, hein, il faut bien le reconnaître. Alors, 2 Samuel 22, il est dit à partir du verset 25, mais ce n'est pas ce verset sur lequel nous allons nous arrêter. « Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu, selon ma droiture, selon la pureté devant mes yeux, avec celui qui est bon, tu te montres bon. » Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture ou la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Et le verset 29 qui sera l'objet de notre pensée. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Je rappelle ce dernier verset. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Ça, c'est une prière. C'est une prière qui nous ramène à une autre version. Et cette autre version nous dit, elle est plus précise encore, écoutez bien, tu transformes, en d'autres termes, tu changes. Tu transformes mes ténèbres en clarté. Et ça, j'aime beaucoup ce passage. Tu transformes mes ténèbres en clarté, d'où tout simplement le titre de notre méditation, le pouvoir de changer. Et nous allons voir qui a le pouvoir de nous changer. Qui a la capacité de faire de nous de nouvelles créatures. Et ce qui a fait dire à l'apôtre Paul à un moment, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'année 2010, les choses anciennes sont passées. Nous pouvons rester sur ces choses anciennes. Nous pouvons pleurer sur ces choses anciennes. Nous pouvons regretter ces choses anciennes, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. Mais aujourd'hui, il y a devant nous une vie nouvelle. Et elle est nouvelle tous les matins, puisque la grâce de l'Éternel se renouvelle, vous savez. Tu transformes mes ténèbres en clarté. Alors nous en arrivons à celui qui était sollicité par David, Dieu l'Éternel. Et David était certainement conscient d'une chose, c'est que Dieu seul, Dieu uniquement, a le pouvoir de changer l'ordre et la nature des choses. Et nous sommes dans un ordre qui a été créé par Dieu, même s'il y a du désordre fait par les hommes, et nous sommes aussi dans cette création naturel de Dieu, et lui a le pouvoir de changer toute chose. Quand Dieu fait un miracle, une guérison, changer l'eau en vin, il ne fait que, quelque part, changer l'ordre naturel pour lui appliquer la dimension surnaturelle. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Il y a des choses qui ne changeront pas naturellement. Il y a des choses qui changeront par la grâce surnaturelle que Dieu nous donne. Il faut croire au charisme, il faut croire à la puissance de Dieu, il faut croire à la vie encore du Saint-Esprit, toujours à la vie du Saint-Esprit, à l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui le fait. Moi, je ne peux rien, je suis incapable de rien du tout. Ce que je suis, ce que je vous dis même, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Celui qui a dit qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation, c'est celui qui est capable de tout changer. Nous, nous sommes vraiment changeants. Hein. Nous sommes tellement variables. Nous sommes tellement inconstants et imprécis, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fonction des événements. Eh bien, la foi, justement, c'est la solidité, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Et cette foi, Dieu attend que nous lui manifestions, parce que lui, il est invariable et il n'y a pas de changement. Or, ce pouvoir unique de changer toute chose, eh bien, vient du Seigneur. Nous avons un Dieu qui est considéré comme inchangeable. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Et pourtant, je voudrais quand même vous dire ce matin et vous le rappeler, c'est un Dieu qui bouge. Et il bouge plus que nous, hein. Le Seigneur est un Dieu qui bouge. Et moi, je suis heureux de connaître un Dieu qui bouge. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas une statue, ce n'est pas un Dieu qui serait perdu, là, je ne sais dans quel monde. Non, non. Nous avons un Dieu qui bouge. Et d'ailleurs, il est souvent qualifié dans la pensée ou tout simplement dans les mots, dans notre Bible. Dieu est inchangeable. Il est immuable. Ce sont des mots glorieux. Il est invariable. On l'appelle l'immutable ou l'immutable. Peu importe, c'est difficile. Et nous avons quelques exemples justement de ce Dieu qui reste toujours le même comparé à un rocher. Et vous le savez, il change le mal en bien. Et je voudrais le dire à tous mes frères et mes sœurs qui souffrent ce matin, parce que vous êtes confrontés avec le mal. Eh bien, Dieu est le seul qui est capable de changer ce mal qui vous étreint et qui vous inquiète. Eh bien, il est capable de le changer en bien. Et ça, faut le croire. Il est capable de changer le bâton en serpent. Ah, ça vous rappelle quelque chose, hein? Voilà, tout simplement. Il est capable de changer l'eau en sang. Vous vous souvenez des plaies d'Égypte? Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Alors nous n'avons rien à craindre contre la malédiction sans cause, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il est capable de changer les lamentations, les pleurs et tout ce qu'il peut y avoir de dramatique, les chagrins de la terre, en allégresse. Il est capable de changer les ténèbres en lumière. Il est capable de changer les coteaux, les montagnes, eh bien, tout simplement en plaine, le désert en étang, nous dit le livre du prophète Ésaïe. La gloire en ignominie et l'ignominie en gloire. Ça, c'est déconcertant, mais c'est ça, c'est Dieu. L'aurore en ténèbres. Il est capable de changer l'eau en vin aussi. La tristesse en joie. Les eaux en absinthe. Toutes sortes de choses, tout pouvoir, toute capacité appartiennent au Seigneur. À la création, Dieu fait tourner sa terre sur son axe. Et heureusement, parce que si c'était désaxé, on a déjà la tête en bas, souvent. Qu'est-ce que ça serait, hein? Et ça, c'est prodigieux, hein? C'est lui qui est la garantie que la terre tournera. Et dans un monde, oh, qu'est-ce que j'allais dire, dans le firmament, dans l'univers, on se dit, mais qu'est-ce que l'on est, hein, dans tout cela? Et ça ne bouge pas, hein. C'est quand même relativement simple, il y a des variations, mais ça c'est la nature, parce que ce que l'on dit c'est nouveau aujourd'hui, ça a toujours existé, c'est des fluctuations. Donc c'est lui qui fait tourner la Terre sur son axe, hein, en suspension dans l'univers. Je parle de la création, là. Ouais. On se demande comment on tient. Hein. Et vous savez qu'on n'est pas debout, là. On est un peu de côté, hein. Et vous savez qu'on tourne à une vitesse vertigineuse, vous avez pas mal au cœur? Non? Ça va? Et c'est le terme, hein, vertigineux. Et on s'en aperçoit pas. On peut dire que tes œuvres sont admirables, Seigneur. C'est magnifique. Ça s'arrêterait un petit peu, ben vous serez tous malades, hein. On serait tous, la terre s'arrêterait, qu'est-ce qui se passerait, hein? Alors, je voudrais vous dire, quand le soleil brille, dans un hémisphère, l'autre est plongé dans la nuit. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à la lumière. Mais il y a des gens, des chrétiens qui sont de l'autre côté, et ils sont dans la nuit pour eux. Parce que Dieu, justement, eh bien, a fait les choses dans la perfection. Il y a l'alternance côté lumineux et côté sombre. Et c'est ça. Tout est comme ça. Lorsque l'homme rentre et est submergé dans la nuit de l'adversité, eh bien, dans le même temps, il y a un autre homme qui voit poindre l'aurore de l'espérance et de la délivrance. Tantôt c'est son tour, tantôt c'est le mien. Ce qui montre bien que si je suis dans une situation de difficulté, Dieu ne manquera pas de m'en sortir à un moment ou à un autre. Et tout est la question de vivre justement dans ces moments difficiles. Comment je vais faire? Mais pour le faire, eh bien il faut le croire. Et parce que je le crois, eh bien je vais vivre même dans les ténèbres. Et je vivrai une expérience avec le Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin d'être réconfortés. Toute la Bible nous donne des messages formidables. Le livre des psaumes nous donne des messages d'espérance extraordinaires. Je suis aujourd'hui dans cette condition, mais je peux dire que je n'y serai pas toujours parce que j'ai mon Dieu qui est à côté de moi. Et s'il me permet de passer par là, eh bien c'est que je ne serai pas seul. Et de cette expérience même, j'en ressortirai un bienfait, une bénédiction, que je partagerai dans la louange et dans la gloire avec mes autres frères et sœurs. Eh oui, c'est comme cela la vie. Hein. Quand un homme quitte cette vie sans Dieu, il passe de la lumière de la terre à l'obscurité de la mort, ce qui n'est pas notre cas. Parce que, en ce qui nous concerne, alors que le croyant lui passe de la demi-teinte de l'existence à la clarté resplendissante de l'éternité. Ça, c'est le secret de Dieu. Que ceux qui se refusent de croire dans la bonté, dans l'amour de Dieu, ne connaîtront jamais. Parce que c'est un appel d'amour. Un appel qui procède de sa grâce. Dans le même instant, pour des situations diverses et dans des endroits différents, l'un émerge en pleine lumière, tandis que l'autre s'enfonce dans l'obscurité. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan moral ou spirituel. Si nous pénétrons dans le couloir de la nuit, la parole de Dieu nous affirme que si dans le noir total, nous regardons à Dieu seul, ce Dieu caché devient visible. C'est le psaume 139 qui nous le dit, je me souviens. Oui, oui. À ce moment-là même, dans le noir le plus absolu, si je regarde à ce Dieu, je regarde avec la capacité de la foi, alors à ce moment-là, Dieu devient visible. Et demain, nous verrons le jour se lever. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est ça, la bénédiction de Dieu. Notre vision n'est plus une vision, notre compréhension et appréhension des choses n'est plus quelque chose de physique. Bien que nous soyons des êtres physiques, que nous soyons là enveloppés dans un corps qui nous retient, qui est lourd, mais la foi, c'est une autre dimension. Écoutez ce que nous dit le psaume 30, je voudrais le lire avec vous, simplement ce premier passage. C'est toujours David, hein, il nous apprend des grandes choses, David. Et il dit ceci, « Je t'exalte, 30, verset 2, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » C'est l'épreuve, hein, tout cela. Hein. « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Oui, sa grâce toute la vie. Quel rapprochement pouvons-nous faire entre l'instant de l'épreuve et la grâce qui nous accompagne toute notre vie? Il ne faut pas perdre courage, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que, en introduction, eh bien, à cette nouvelle année, nous voulons regarder au Seigneur et nous ferons accompagner ce message d'une prière tout à l'heure, pour que Dieu nous donne d'aller plus haut encore, de regarder plus haut, de fortifier notre foi. Vous savez, je ne sais pas, hein, moi je n'écoute pas l'horoscope du 1er janvier. Alors vous en doutez un petit peu. Mais on prévoit toutes sortes de choses. Il y en a certains qui ont écrit des bouquins là, ces derniers temps, pour 2012, pas les élections mais autre chose. Des catastrophes qui vont venir, toutes sortes de choses. Il y a de quoi être terrorisé, hein. Ça c'est sûr. Alors il y a des endormeurs de conscience qui vous disent « mais tout va bien, vous savez hein, ». J'entendais un commentaire d'un journaliste qui n'est pas le moindre sur France Télévisions qui disait à un moment donné, qui disait « mais véritablement il y a beaucoup d'espoir pour l'homme ». C'est formidable ce qu'il est capable de faire. Nous avons une grande espérance dans l'homme. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est véritablement fermer ses yeux et boucher ses oreilles sur d'autres réalités. Hein. Parce que c'est peut-être pas comme cela que les choses vont se passer. Hein. Parce que quand on regarde cette dernière décennie, qui ont commencé en 2001 avec les tours, hein, qui se sont enflammées, quand on voit l'Afghanistan, quand on voit l'Iran, quand on voit les catastrophes de ci, de là, naturelles ou autre part, quand on se dit, mais Seigneur, c'est vrai qu'on peut mettre son confiance en l'homme, hein, ça c'est certain, pour les secours, pour être secouru. Mais pour prévoir tout ça, c'est encore une autre affaire. Alors, moi je dis que nous avons besoin d'avoir une autre raison, frères et sœurs, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous donner ce message. Hein, et de dire, mais on regarde autrement, on regarde d'une autre façon, et on regarde surtout au Seigneur qui, lui, eh bien, détient toute chose, même ma propre vie. Même ma propre vie, votre propre vie. Qu'est-ce que nous serons en 2020? Eh oui. Il y aura des frères et des sœurs qui seront dans la gloire. Oui. C'est vrai. Il y aura peut-être des plus jeunes qui seront dans la gloire aussi. Parce que c'est comme ça, hein. On se suit pas, c'est pas forcément... Vous savez, un petit ticket qu'on prend là pour décrocher, pour avoir le numéro là, qui, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ouais. C'est comme ça, tout simplement. Mais moi, ce que je souhaite, en tous les cas, c'est que nous vivions l'instant que Dieu nous donne aujourd'hui, et que nous le bénissions. Que nous bénissions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors demain, eh bien, tu seras ce que sera. Ça sera ce que tu voudras, tout simplement. Alors, selon le processus invariable, que tout ce qui disparaît ici-bas réapparaît, parce qu'il y a une grande doctrine dans la Bible que Jésus a mis en évidence, qui avait été contenue, qui était comme dans un bourgeon dans l'Ancien Testament, c'est la mort et la résurrection. Ouais. Parce que tout ce qui meurt ressuscite. Ouais, c'est le principe. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir. Vous savez, Jésus nous en parle d'une manière admirable. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 23-24, il dira, mais si finalement le grain de blé ne meurt, eh bien, il reste seul, il reste en terre, et puis ben, il ne donne rien. Mais s'il meurt, alors à ce moment-là, il va rejaillir la vie. Et nous sommes des porteurs de vie. Dieu a mis un principe de vie, nous sommes comme la graine, quelque part. Et nous devons multiplier d'abord pour nous-mêmes, dans notre propre vie spirituelle, autour de nous, dans nos familles, dans nos amis. Mais nous devons multiplier autour de nous et porter un grain 50, un autre 80, un autre 100. Seigneur, donne-nous des porteurs d'espérance et des porteurs, des communicateurs de vie. Autour de nous. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Elle est là, elle est marquée. Mais il faut passer par cette mort. C'est pour ça que je disais, mais qu'est-ce qui doit changer? Eh bien Dieu nous répond, c'est toi qui dois changer. Parce qu'à partir du moment où tu vas progresser dans le changement, ce qu'on appelle la sanctification ou la régénération, eh bien Dieu va faire les choses. Il ne veut pas que nous soyons un tout petit grain stérile, stratifié, là, qui ne donne rien, mais nous portions du vie. Nous portions, eh bien, la vie autour de nous. Vous savez, le mouvement de rotation qui nous pousse dans l'ombre nous ramène toujours à la lumière. Est-ce que vous doutez un instant que demain matin il fera jour? Non. On ne se pose même pas la question. Demain il fera jour. Parce que c'est un mouvement de rotation. Et c'est ça justement ce que Dieu veut nous apprendre dans notre vie. À prendre en considération que tout ce qui disparaît un moment réapparaît. Que tout ce qui nous échappe, eh bien, Dieu nous le donnera. Mais si nous savons le donner, si nous savons lui faire confiance. Parce que ça, c'est une loi immuable. Peut-être pour ça que le Seigneur a fait la terre ronde. Oui. Parce que ça tourne. Alors, c'est comme un mouvement de balancier. Et je voudrais insister encore brièvement. Mais quand on est dans l'épreuve, mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire vraiment de tout mon cœur. Vous qui êtes dans l'épreuve, permettez-moi de dire, vous allez vous en sortir. Oui, vous allez vous en sortir. Et l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous dit, quelquefois à travers un chant d'un cantique, qui arrive au moment où vous êtes le plus mal, au moment où vous sentez vraiment désespéré, que vous êtes physiquement, humainement, naturellement mal, vous avez comme une visitation du Saint-Esprit et vous mettez à chanter un petit cœur comme ça qui vous revient à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose de fugitif, c'est vrai, mais qui nous parle que Dieu, de toute façon. Quand on rentre dans le tunnel, on en sort toujours de l'autre côté. On rentre dans la lumière, on rentre dans l'ombre, mais on en sort toujours à la lumière. Et on sort jamais pareil. Ouais. Moi, je me souviens au moment de ma conversion, qui n'a pas été très simple, mais comme beaucoup de conversions, hein, aujourd'hui, on regarde ça avec naturellement, avec le temps qui a passé et reconnaissant que Dieu nous est tenu jusqu'à maintenant. Je me souviens, il y a un petit cœur que j'avais appris dans les premières réunions. Hein, C'est un petit cœur qui nous dit que Dieu reste toujours le même. Voilà. Il reste toujours le même. Hein, et quand il y a de l'orage, eh bien, c'est lui qui chasse les ténèbres. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Parce que, vous savez, quand on apprend des cantiques, quand on chante des cantiques, on les enregistre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous les ressort à un moment donné. Quand on lit sa Bible et qu'on s'imprègne de toutes ces paroles merveilleuses, fortifiantes, édifiantes, des paroles d'espérance, mais on les intègre aussi à un moment donné, quelquefois au moment où c'est le plus sombre, Dieu nous les rappelle par le Saint-Esprit. Et ça nous fait un bien immense. Ça nous fait quelque chose qui nous fait un bien, oui, un bien immense. Il y a dans le secret et l'invisible du ciel, ce que j'appellerais, ce que la Bible nous parle, le divin veilleur de nuit. C'est pas le veilleur de jour, hein. C'est le veilleur de nuit. Il y a un beau psaume que nous parlerons tout à l'heure sur le veilleur de nuit. Et quand je suis dans la nuit, il y a un veilleur à côté de moi. Oui. Je peux avoir toutes les lumières éteintes, il ne reste plus rien, mais il est là. Qui ne manque jamais de faire apparaître finalement ce que la Bible nous donne comme espérance dans le livre de l'Apocalypse, la brillante étoile du matin. Et vous savez comment s'appelle cette brillante étoile du matin ? Hein ? C'est pas Mars, c'est pas le soleil, c'est pas... Non, c'est tout simplement Jésus. Et il apparaît. Cependant, il ne peut transformer, Dieu ne peut transformer nos obscurités en clarté, comme David le dit, qu'à une seule et unique condition. Et cette condition, nous allons la marteler encore dans cette année. Nous en parlerons dans l'évangélisation parce que c'est la priorité. Nous en parlerons dans nos cultes, dans notre édification. Cet impératif, c'est véritablement la foi. Si nous avons la foi, frères et sœurs, nous avons tout. Qu'il ne nous reste plus rien dans ce monde, si nous gardons la foi, nous avons l'essentiel et le principal. Parce que c'est vraiment la foi qui glorifie Dieu. Dieu agrée une chose de ses créatures, c'est que nous lui fassions tout simplement confiance. Et ça ne peut fonctionner qu'avec cela, tout simplement. C'est pour ça que quand on veut faire les choses soi-même, par des techniques, par des méthodes, par toutes sortes de choses, eh bien, quelque part, on diminue le pouvoir de la foi, la capacité de la foi, en disant, bien Seigneur, je vais le faire moi-même. On enlève quelque chose à Dieu. Alors qu'il veut que nous nous abandonnions complètement et totalement, en disant, Seigneur, eh bien voilà, moi, je suis au bout, parfois du rouleau, comme l'on dit. Hein. Je n'en peux plus, Seigneur. Alors, c'est parce que, justement, je suis dans cette condition et Dieu permet que nous en puissions plus, que nous puissions plus aller plus loin d'autres perspectives et d'autres énergies que nous pourrions déployer pour nous en tirer, qu'à ce moment-là, nous nous reposons et nous nous jetons dans ses bras et c'est lui qui va faire les choses. Oui, et c'est souvent après des combats et de l'épuisement. Et Dieu permet parfois l'épuisement pour que nous baissions les armes en disant, Seigneur, c'est toi qui fais les choses. Ça, c'est aussi, ça fait partie de la stratégie, lui faire confiance, hein, tout simplement parce que nous pouvons, eh bien, accrocher notre cœur à ses paroles. Pour notre encouragement, considérons comment Dieu a déjà procédé avec d'autres avant nous et qui nous enseigne qu'il a le pouvoir de faire et de changer les choses. Pouvoir de faire et de changer les choses. Souvenons-nous simplement de deux ou trois faits, hein, mais souvenons-nous que c'est quand Dieu a fait reposer un grand sommeil, c'est-à-dire la nuit, sur Adam, que quand Adam s'est réveillé, eh bien, il lui a donné à son réveil Ève. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y avait un besoin immense dans le premier homme. C'est de partager sa vie avec une créature qui soit semblable à lui. Ça, c'est une belle espérance aussi, peut-être, pour ceux qui attendent celui ou celle. Ouais. Mais il a fallu qu'Adam soit plongé dans ce sommeil. Il est rentré dans la nuit à un moment donné. J'allais dire, Dieu l'avait anesthésié, je ne sais pas. Hein, mais le pouvoir de Dieu a le pouvoir d'endormir et il a le pouvoir de réveiller. Mais c'est au réveil. C'est au réveil qu'à ce moment-là, quand Adam, et je trouve que c'est une image magnifique, hein, à l'aurore de la carrière humaine, des commencements du commencement, on peut dire, que là, il a pu dire, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Et c'est Dieu qui lui a donné. Et je trouve que c'est une, une belle réponse que Dieu a donnée pour rompre la solitude d'Adam. Ouais. Et nous, quand nous rentrons dans la nuit, quand nous rentrons dans une épreuve ou dans une autre, c'est parce qu'il a quelque chose de bon à nous donner, de quelque chose de merveilleux. Et toutes les expériences que nous avons faites depuis peut-être des décennies, on retient peut-être, on se retient de rentrer dans ces moments d'affliction. Mais quand on voit comment Dieu est merveilleux, moi je bénis le Seigneur. Ne serait-ce que déjà depuis que nous sommes à Saint-Nazaire, depuis 7 ans maintenant, ça commence à faire, hein, hein, un septennat, vous vous rendez compte, hein. Eh bien, quand je vois comment le Seigneur nous a conduits, comment il nous a aidés, comment il nous a donné de partager les choses avec nous. Chaque pasteur a son tempérament, son caractère, ça c'est sûr. Puis il a son ministère aussi, mais de pouvoir. Comment il nous a délivrés aussi de certaines situations. Comment il a éteint le feu dans certains cas. Comment il a apaisé les orages, toutes sortes de choses. Comment je suis arrivé, si je ne parle simplement brièvement de moi, vraiment à genoux, malade. Ouais. Et que, je dirais comme Paul, ben, vous nous avez accueillis. Hein, comme Paul le dira aux Galates, hein, parce que, et comment Dieu a fait les choses après, comment il a réglé les problèmes matériels. Je ne suis pas en train de faire un bilan, mais voilà. Parce que finalement, vous savez, on ne fait pas grand-chose. Hein. On ne fait que ce que Dieu nous donne de faire, avec la capacité qu'il nous donne, et avec la vision qu'il nous donne. Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est que l'Église reste en paix. Moi, je voudrais le dire, parce que je ne le dirai pas toujours, mais que l'Église reste en paix. Et qu'elle reste dans un caractère de fraternité, que nous puissions nous aimer les uns les autres. La paix et l'unité. Et ça, c'est important. Alors je me dis, Seigneur, tu vois, moi je ne parle pas du passé, je ne parle pas de ceux qui sont avant moi. Ils ont fait peut-être ce qu'ils ont pu faire. Mais une chose qui est certaine, c'est que tous ensemble, nous sommes engagés pour une nouvelle perspective. Hein? Parce que l'Église va continuer de toute manière. Et c'est ça. Et vous savez, la seule chose qui fera la différence, c'est notre foi aux uns et aux autres. Et que si nous nous aimons les uns les autres, ça c'est important. Ouais. Et c'était pour l'amour, hein, que quand Adam s'est réveillé de son sommeil, c'est pour qu'il puisse aimer, voilà, hein, un être qui soit semblable à lui. Et je crois que nous avons vraiment besoin de prier pour qu'il y ait toujours de plus en plus d'amour. Alors on est différents, on a différentes éducations, même des éducations évangéliques, hein, on n'est peut-être pas de la même... Mais il y a un point commun, il y a un tronc commun, c'est Jésus. Et lui, en tous les cas, il nous a dit « aimez-vous les uns les autres ». Et ça, c'est essentiel, c'est important. Alors... Dieu est là, vous voyez comme on le chante, le Seigneur est au milieu de nous, et je crois qu'il y a des belles histoires dans la Bible. Je prends par exemple encore, simplement, brièvement, c'est quand aussi au cœur de la nuit de la prison de Philippe, où Paul et Silas avaient été blessés, maltraités, humiliés, écrasés, piétinés, labourés, qu'à ce moment-là ils chantaient des cantiques à Dieu. Et vous savez qu'en chantant les cantiques à Dieu, ils ont déclenché un cataclysme. Mais pas un cataclysme destructeur, un cataclysme libérateur. Et moi, je crois que l'Église a besoin, et on va terminer là-dessus d'ici quelques instants, on va terminer sur cette question, c'est que moi, quand l'Église aura dépassé peut-être ses craintes et ses peurs, ses frustrations, toutes sortes de choses, et que nous serons arrivés dans une dimension de louange et d'adoration, eh bien, le Seigneur va envoyer un cataclysme de libération. Pour chacun d'entre nous, mais aussi pour le monde qui est autour de nous. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a donné véritablement sa pensée, pour que nous le vivions les uns les autres. Ouais, tu es merveilleux, Seigneur. Tu changes, tu transformes mes ténèbres en clarté. Ouais, tu transformes mes ténèbres en clarté, nous dit David. Et c'était, eh bien, une providence de Dieu à Philippe, parce que non seulement Paul et Silas ont été délivrés, ils ont pu faire de l'évangélisation... auprès du geôlier, qui toute sa famille, eh bien, s'est fait baptiser la nuit même. Mais ça a été aussi, eh bien, un témoignage glorieux pour toute cette région. Mais le diable n'était pas content. Alors, n'écoutez pas le diable, n'écoutez pas les ténèbres, n'écoutez pas le mensonge, mais écoutez la parole de Dieu. De même que Pierre, lorsqu'il était emprisonné au fond de son cachot, il nous a dit que c'était à minuit. Ouais. Midi, minuit, minuit. Parce qu'il a vu à ce moment-là les portes s'ouvrir devant lui et il a recouvré la liberté. Une pensée que le Seigneur voudrait donner à tous ceux qui sont au cœur de l'épreuve. À minuit dans la prison. Vous l'êtes peut-être. Peut-être sur le plan de votre vie affective, de votre vie professionnelle, d'une manière ou d'une autre. peu importe. Vous êtes peut-être là dans votre prison et il est minuit. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y en a un qui a le pouvoir, finalement, de faire et de répondre à votre prière, parce que vous criez pour cela. Et les portes se sont ouvertes. Oui. C'est souvent au dernier moment que Dieu intervient. Combien de fois dans notre vie nous l'avons vu dans nos épreuves, dans nos chagrins, dans nos larmes, où nous étions prêts à baisser les bras, et c'est là où Dieu est intervenu. Où on n'y croyait plus peut-être. C'est curieux que je dise ça, au moment où on n'y croit plus. Oui, parce que quelquefois il y a vraiment une usure, il y a un amortissement, on n'en peut plus, mais c'est pas pour ça que dans cet instant-là, on n'a pas cru avant, on n'a pas crié au Seigneur, et lui, il nous fait grâce, parce que s'il s'arrêtait seulement sur la dernière impression que nous pouvons avoir de dire « Seigneur, j'abandonne tout », c'est peut-être ce qu'il veut entendre aussi dans certains cas quand on veut se battre, mais il a entendu notre cheminement. Et là, c'est quelque chose de merveilleux, quand d'un moment vous passez de l'obscurité à la lumière qui jaillit. C'est beau. C'est ce qui fait que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous croyons encore dans le Seigneur, que nous croyons toujours et que ce que nous avons vu n'a rien à voir avec ce que nous allons voir. Parce que nous passerons justement de ces ténèbres de la mort et quand nos yeux se fermeront ici-bas, ils s'ouvriront dans un autre monde. Ce sera une lumière qui n'a pas d'équivalent. La lumière de Dieu, la lumière du ciel. Alors n'ayons pas peur. Moi, le message que j'aurais à vous dire, n'ayons pas peur des temps qui viennent. Il peut y en avoir des choses. Vous savez, notre monde, il est assis sur un baril de poudre. Mais n'ayons pas peur. Dernier exemple avant de terminer. Souvenez-vous, en plein après-midi, un jour à Jérusalem, c'était le jour où on crucifiait Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu d'épaisses ténèbres. D'épaisses, ça veut dire ce que ça veut dire. Et nous voyons que dans ces 3 heures qui ont passé sur la terre, sur le mont Golgotha, 3 jours après, a rejailli un jour nouveau, pour lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel nous sommes. C'est un jour plein de lumière, c'était celui de la résurrection. Et je crois que l'essence même du christianisme, c'est vrai, c'est la mort du Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un christianisme où on s'est arrêté à la mort de Jésus, sans croire à la résurrection. Nous, nous sommes et nous bénissons le Seigneur de la mort de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, mais nous bénissons d'autant plus, eh bien, ce miracle qu'est la résurrection. Et vous savez que le principal, le corps du message de l'évangile qui était prêché par les premiers disciples, c'était la résurrection de Jésus-Christ. Et nous, nous devons croire à la résurrection. Et nous devons vivre et nous devons annoncer la résurrection de Jésus. Alors, dans nos chambres noires, Dieu s'en sert pour faire resplendir sa lumière et éliminer nos vies. Et je termine par la lecture de ce psaume, une partie de ce psaume, psaume 40, où il nous est donné simplement cette parole. C'est toujours David. Il dit ceci, verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Écoutez bien, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, je voudrais quand même ajouter ceci, que lorsque vous passez par l'épreuve, parce que vous passerez par l'épreuve, eh bien vous serez un témoignage à la gloire de Dieu par votre délivrance. Et c'est pour ça que nous passons des épreuves, c'est pas seulement pour nous-mêmes, bien sûr, que Dieu va nous faire, il va nous façonner, il va nous modeler, il va nous refaire, il va nous pétrir, il va le faire comme il veut pour nous-mêmes. Mais je crois que n'oublions pas que lorsque nous passons par des épreuves, nous allons glorifier le Seigneur par notre foi et d'autres le verront et ils loueront Dieu. Moi, je loue le Seigneur de voir des frères et des sœurs qui ont traversé des moments difficiles et par leur témoignage d'encourager les autres. Et vous savez, pour bien encourager les autres, il faut y passer soi-même. C'est pas des discours, c'est pas de la théologie, c'est pas des sermons, c'est pas des beaux messages, c'est parce que je peux dire Seigneur, et je suis confus de reconnaissance et je suis heureux de pouvoir le dire, mais Seigneur, tu m'as pris alors que j'étais malade, j'étais souffrant, j'étais dans la désespérance, et tu m'as fait de moi un homme nouveau. C'est formidable. Tu as changé, alors que j'étais prisonnier de ma tristesse et de ma pauvreté, tu as fait de moi un homme joyeux et donc des communicateurs de la vie. C'est ça ce que nous sommes appelés à vivre, mes frères et sœurs. Oui, Seigneur. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en lui sa confiance. Qui place en lui sa confiance. Seigneur, donne-nous d'avoir dans cette année nouvelle plus de confiance en toi. Donne-nous d'avoir plus de foi. Et nous savons où la trouver, cette foi. Elle est dans ta parole. Elle est dans ta parole. Dans une compréhension tellement remplie d'amour, de grâce que tu me donnes. Ce n'est pas quelque chose de figé. Je vous ai dit que Dieu est immuable. Il est invariable, il ne change pas, mais Dieu bouge. Et le Saint-Esprit est le symbole même, l'emblème de ce Dieu qui bouge. Parce qu'il fait même trembler les murs. Ouais. Il fait parler les hommes dans des langues qui sont des langues du ciel. Alors le dernier mot revient à Jésus, parce qu'il clôturera son testament avant de monter au ciel après sa crucifixion et sa résurrection, il dira « Tout pouvoir, oui, celui de changer l'inchangeable, de rendre l'impossible possible, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et je vous avais parlé tout à l'heure de ce psaume où il est dit, où il est question du veilleur de nuit. C'est très poétique, c'est magnifique. Écoutez, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Les questions que nous pouvons nous poser dans nos épreuves. Nous interrogeons, sentinelle, mais qu'est-ce que tu vois dans la nuit? Qu'est-ce que tu vois, mon frère et ma sœur, dans ta nuit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu perçois? Rien du tout. Il y a des épaisses ténèbres. Ou alors, peut-être, tu aperçois dans le lointain, mais tellement, tellement loin, une petite lueur. Alors, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond. Écoutez. Pour chacun d'entre nous, la sentinelle, qu'est-ce qu'elle nous répond? Le matin vient. Mes frères et sœurs, le matin vient. Le grand matin du monde vient. Le Seigneur revient bientôt. Mais en attendant son retour, Dieu te dit, si tu questionnes la sentinelle, que dis-tu de la nuit? Elle va te répondre. Dans tes épreuves, dans tes souffrances, dans tes peines, dans tes chagrins, alors que tu es perdu, pas perdu spirituellement, mais que tu es complètement désarçonné, eh bien, Dieu te répond. Le matin vient, le Seigneur est là, le Seigneur nous bénit et le Seigneur nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que Dieu nous donne sa grâce. Puis permettez-moi de vous souhaiter avec Myriam, eh bien une bonne année. 2011, que Dieu vous bénisse et que nous puissions marcher encore, quelque temps ensemble, par sa grâce. Le matin vient, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen, on va prier quelques instants. Seigneur, je veux te rendre grâce. Et je veux te remercier parce que le monde nous montre que tout est en train de s'obscurcir, tout est en train de s'enténébrer, que la lumière naturelle, eh bien, Seigneur, se voile de plus en plus. La vie morale des hommes, Seigneur, est plongée, Seigneur, dans de l'encre. La vie spirituelle n'est pas une vie spirituelle de lumière, mais une vie spirituelle qui vient du prince des ténèbres. Nous savons, Seigneur, que tout cela, Seigneur, fait partie de cette humanité pécheresse, de cette humanité qui a été trompée à l'origine par le diable et qui croit plus au mensonge qu'à la vérité. Mais Seigneur, pour nous, les enfants de Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier de tout notre cœur, parce que souvent nous questionnons la sentinelle, la divine sentinelle. Oui, qu'en dis-tu de la nuit, Seigneur? Qu'en dis-tu de ma nuit, Seigneur? Qu'en dis-tu de mon attente, de mon impatience? Qu'en dis-tu de mon cœur? Qu'en dis-tu de ce que j'attends depuis longtemps et qui n'est pas encore arrivé? Eh bien, tu nous réponds, et ça me fait du bien de t'entendre. Tu me réponds, tu réponds à mes frères et mes sœurs dans l'attente. Le matin vient. Oui, et avec le matin, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la chaleur. C'est une vie nouvelle, une nouvelle vie, Seigneur. Eh bien, je te le demande, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, qu'ils prennent cette parole. Oh, je l'ai donnée, Seigneur, certainement maladroitement, mais Je pense, Seigneur, à tous ceux et celles qui ont besoin de recevoir maintenant par l'Esprit qui passe dans nos vies, dans nos cœurs, que le matin vient. Alors le matin, il me rassure. Le matin, je reprends des forces. Le matin, je me lève et je me mets debout pour attendre, eh bien, Seigneur, de vivre. Et dans mon cœur, eh bien, il y a la joie, il y a l'allégresse de vivre quelque chose de nouveau parce que, Seigneur, tu es le rocher, tu es l'immuable, tu es celui qui n'a ni ombre de changement ni de variation. Mais pourtant, Seigneur, tu bouges merveilleusement, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour le matin qui vient. Amen.